Oui, eh bien, bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à nos auditeurs de Fleury-Mérogis. Lisez, lisez toujours. Ouvrons-nous l'esprit par le livre et rejetons les dogmes. N'oublions jamais la devise de la Fédération anarchiste, ni Dieu, ni maître. Et n'oublions pas non plus notre auditrice de France Agrimaire. Il est 17h, nous sommes le mercredi 24 juin 2026. Nous nous retrouvons pour une émission enregistrée. J'ai eu des contraintes professionnelles, ça peut arriver. 1h30 de partage de livres. 1h30 de jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité Anne Desfarges, maître de conférences en histoire et civilisation allemande à l'Université de Besançon. Très récemment, elle a publié aux éditions Atland un ouvrage intitulé « Allemagne 1918-1923, leçon d'une révolution fusillée ». N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Il suffit de nous proposer par exemple des livres et je suis sûr que certains, certaines d'entre nous en parleront. Démarrons sans tarder car l'entretien avec Anne Desfarges est assez long car il porte sur une période de l'histoire qui est un peu oubliée et nous n'avons pas voulu écourter cet échange, on l'entrecoupera de musique. Pour alimenter le débat, c'est toujours, vous savez bien, la première partie de notre émission. Et pour alimenter le débat, eh bien, intéressons-nous à la justice. Intéressons-nous à la justice en Italie, car la justice, officiellement, c'est le respect des femmes et des hommes. Et c'est Dominique qui ouvre la danse avec le livre de Roberto Saviano, Giovanni Falcone, aux éditions Gallimard, en 2025. Et après, sans transition, nous écouterons la musique du film « Il traditore ». Ça vous fera plaisir parce que c'est une musique que je trouve assez intéressante.
Je vais vous présenter le dernier livre de Roberto Saviano sur Giovanni Falcone, publié chez Gallimard en 2025, traduit par Laura Brignon. Tout le monde connaît l'auteur de Gomorra sur l'empire de la Camorra à Naples. Il vit désormais sous protection policière depuis le livre Gomorra. Puis alors le dernier livre qui vient ne va pas arranger sa situation.
Alors c'est quoi? C'est une biographie du juge Falcone?
Oui, alors ce n'est pas une simple biographie. C'est l'histoire d'une île, la Sicile, soumise à la pauvreté et à la violence avec son réseau dense de clans mafieux. C'est l'histoire des nombreux juges, policiers, gardes du corps, personnalités politiques qui sont morts pour avoir lutté contre la mafia. L'auteur écrit « Quiconque s'en mêle meurt, on peut tracer des croix sur les fauteuils des juges du tribunal de Palerme ». 71 courts chapitres, datés et localisés, s'enchaînent pour retracer le fil des événements de 1982 à 1992.
C'est presque un drame antique.
Oui, parce qu'on se doute de la fin de M. Falcone. C'est un homme déterminé à obtenir justice et à faire tomber la mafia au péril de sa vie. Assiégé par de sombres présages, énoncé par le cœur de ses collègues assassinés avant lui. La liste est longue. Un magistrat, Terranova, des juges comme Rocco Cinici ou encore le commissaire Boris Giuliano, le président du conseil régional, le général Della Chiesa, préfet de Palerme, mais aussi un député, membre du PCI, qui, en plus, la mafia signe par des faux groupes prolétariens organisés. Parce que le député travaillait sur la confiscation des biens des mafiosi. Oui. Les attentats contre les personnalités sont appelés « crimes exquis ». C'est pas nouveau, hein, ils ont commencé en 1893 avec l'assassinat du maire de Palerme. Oui. Et donc, on voit Falcone comme un Sisyphe intègre qui n'avance que par la force de l'idéal et qui est animé par un sens profond de l'État.
Alors, la mort, oui. Parce qu'il est toujours vivant, mais la mort est très présente.
Oui, alors, Saviano écrit « Il y a un tribunal des vivants qui ralentit la justice, il y a un tribunal des morts qui n'a pas reçu justice. Les morts sont aussi dans les camps adverses de la mafia, c'est-à-dire que la mafia, ils se tuent entre eux.
Oui, par exemple, il y a Totorine.
Oui. Bon, par exemple, il a ordonné la mort de 16 membres d'une famille, y compris au Brésil et aux États-Unis. On n'hésite pas à tuer femmes et enfants. On apprend aussi le cursus vitae de Toto, pauvre agriculteur à Corleone qui a vu sa famille sauter sur une bombe de la guerre. Donc au tribunal, il invoque toujours ce passé terrible.
Et puis il y a Tommaso Busquets. Hein.
Oui, ce sera le premier repenti, ouais. Issu d'une famille aussi pauvre de 17 enfants, dont 4 enfants disparus par la volonté de Toto. Alors quand les enfants disparaissent, on appelle ça le système de fusil de chasse blanc. C'est tout un système, hein. Oui. Ouais.
Alors, comment travaille Falcone ?
Alors, Falcone, il est très fort en droit, en observation et en méthode. Alors, il connaît le code pénal parfaitement. Il a compris aussi très tôt que la mafia avait imbibé le capitalisme, infiltré l'économie du pays de manière tentaculaire. Et il a fait la lumière sur les liens entre le crime organisé et le pouvoir politique. Falcone travaille comme une fourmi sur les procès. Il va regarder les talons de chèques, les sociétés écrans, les marchés publics. Il suit les flux financiers jusqu'aux États-Unis. Il veut appliquer la méthode antiterroriste, agir en même temps dans plusieurs villes. Mais la pression était forte quand les terroristes tiraient dans les jambes. Les gens voulaient justice. Pour les morts de la mafia, personne ne s'y intéresse de près. Alors, il va créer un pool comme le pool antiterroriste, et lance une course de relais avec les policiers, les autres juges civils, les juges des mineurs, les bars, les prostituées, les journalistes. Il va agir sur les politiques, le maire de Palerme. Il va contrôler Andreotti, hein, dont on connaît.
Andreotti, oui.
Il va aussi convoquer les banquiers, les entrepreneurs. Alors, il n'obtient pas de soutien de la droite ni de la gauche qui lui reproche de mettre la vie des citoyens en danger et qui accuse les policiers d'être des assassins quand ils tirent sur un mafioso. Le parti radical dit que ce policier est tout aussi criminel que la mafia. Il suit la mafia qui part à Turin et à Milan et tente d'identifier ce qu'il appelle le polycentrisme des équipes. Il arrive à réunir les preuves, mais les juges... Alors, du palais, il appelle ça le palais des venins, ne le suivent pas. Les jugements seront fantaisistes, les jurys intimidés. Des pans entiers de procédures vont être annulés.
Mais il n'a pas peur.
Falcone reçoit sans arrêt des cartes postales ornées de cercueils. Il en a recensé 167. Il n'est pas impressionnable. Il a déjà été pris en otage 2 fois sous la menace d'un P38 dans une prison par des détenus qui exigeaient un rapprochement géographique. D'ailleurs, à chaque fois, il s'étonnait comment un P38 pouvait rentrer.
Oui, intéressant.
Oui. Bon. Avant d'accepter un poste, les juges comptent le nombre de morts et la distance bureau-domicile. Les juges ont des gardes du corps jour et nuit, mais même les escortes se font trouer de balles. La mafia y met les moyens. 75 kilos de dynamite dans une Fiat 126 pour faire sauter un immeuble, son ami Rocco Shinichi. Et le vrai drame pour Falcone n'est pas la mort, la douleur, mais plutôt la douleur de la famille, la rue traumatisée. Mais c'est aussi ce qu'il appelle l'agnosticisme de la conscience.
On apprend aussi pas mal sur l'économie de la drogue.
Oui, il nous fait des rappels de l'histoire de l'économie, puisque c'est Falcone qui s'est renseigné. Hein. Mmh. On retrouve des traces d'ailleurs dans l'homme de Cro-Magnon et en Égypte, hein, d'hommes drogués. L'opium a été découvert en Asie par des paysans, il est arrivé en Chine il y a 2000 ans. Il cite aussi plein d'auteurs qui vénéraient la drogue, mais du point de vue littéraire, on va dire.
Paracelse et Baudelaire, évidemment.
Oscar Wilde. Ouais. Bon. On en tire la morphine. Puis arrive l'héroïne, interdite dans un traité international en 1912 et même mentionnée dans le traité de Versailles. Mmh. Ça, je ne savais pas. C'est à ce moment-là que les mafias se sont lancées. Et il y a un consensus pour dire qu'il ne faut pas détruire l'économie palermitaine en luttant trop fort contre la mafia.
C'est extraordinaire d'entendre ça. Et Cosa Nostra.
Donc, il explique comment on rentre dans Cosa Nostra. Grâce à un repenti, il a connu toute cette procédure. Alors, il faut d'abord prêter serment devant 5 ou 6 membres de la famille pour devenir homme d'honneur. Le mafioso doit s'engager à protéger les plus faibles, à éliminer les oppresseurs, dont l'État. On lui pique le doigt avec une aiguille et le sang coule sur une image pieuse, car bien sûr, il faut être un bon catholique. Cosa Nostra est dirigée par une coupole qui décide des meurtres et des enlèvements. La structure est très hiérarchisée avec des familles, des clans, des petites mains, des conseillers, les affiliés. Le grand chef s'appelle Greco, surnommé le pape. En compétition avec Totorina, les clans s'affrontent entre eux, ceux de Corleone et ceux de Palerme. Le pape est arrêté dans une ferme délabrée. Il se fait passer pour un pauvre paysan qui parle le dialecte alors qu'il dirige un réseau mondial de cocaïne.
Et alors, l'auteur décrit avec une grande précision un gigantesque procès qui s'est déroulé en 1987,
c'est ça ? Oui, alors 475 mis en cause, grâce à Falcone et à ses juges. Hein. 36 milliards de lire, donc ça a coûté très cher. 850 000 mètres carrés de vitres blindées. Le seul fait d'appartenir à la mafia est considéré comme une infraction. Il a tapé fort. Hein. Les accusés, les avocats vont tout faire pour retarder le procès. Des témoins clés arrivent la bouche cousue par une agrafeuse ou ont avalé des boulons pour ne pas passer sous le portail de sécurité. Les avocats exigent de lire les 700 000 pièces du dossier à haute voix. Il aurait fallu 2 ans de lecture, donc bien sûr ça a été refusé. 21 mois de débat, 349 audiences, 900 témoins. La ligne de défense est de dire que la coupole n'a pas décidé les assassinats des personnalités. Ce sont les familles qui sont autonomes. La coupole ne décide que des crimes des traîtres mafieux. 360 condamnations vont tomber. Elles seront remises en cause en appel, puis de nouveau rétablies en cassation.
Bon, bah c'est tendu. Alors que se passe-t-il le 23 mai 1992.
Oui, on pourrait dire que c'est la fin de partie, puisque le juge Falcone est assassiné sur l'autoroute A29, près de Capaci, dans la province de Palerme, victime d'un attentat à l'explosif. Son épouse Francesco Morvillier, qui était aussi juge civil, et 3 hommes de son escorte perdent également la vie. Les sismographes de la région de Palerme ont enregistré une secousse évocatrice d'un tremblement de terre avec l'explosion de plusieurs centaines de kilogrammes de TNT, placé dans un tunnel d'évacuation des eaux sous l'autoroute proche de la ville. L'homme d'honneur, c'était bien lui.
Alors ça vient, donc, lui, c'est un véritable écrivain, parce qu'on a surtout parlé de Falcone.
Oui, alors j'ai apprécié, en fait, il a reconstitué sa vie, hein. Il a comblé peut-être avec un peu d'imagination. J'ai apprécié ces belles images frappantes. À un moment, il dit, si les Corléanais le veulent, ils peuvent poser une échelle sur la cathédrale de Montréal, monter jusqu'au paradis et arroser Dieu de balles. Il y a plein de références littéraires. Falcone, lit Proust, Rousseau, les philosophes sur l'origine du mal. Le passage consacré à l'épouse de Falcone, impuissante à soulager son mari rongé de l'intérieur par la charge que lui incube, est superbe. Je vous la lis. Elle sait que ses dernières pensées continuent de se chevaucher à cette heure, qu'elles grouillent comme des vers le long de ses synapses. Elle sait qu'elles sont responsables de cette ombre, de cette obscurité, sinistre, toujours tapie au fond de ses yeux, même dans les moments de bonheur, même le jour de leur mariage. Elle sait que son amour, même si c'est tout ce qu'il est possible de donner, tout ce qu'un humain peut donner, n'y suffira pas. Vous voyez, je suis même émue en lisant cette phrase.
Oui, c'est vrai, c'est très fort.
C'est très fort.
Oui. Et elle va décéder dans l'attentat, donc avec lui.
En même temps, oui.
Oui, tout à fait. Ouais. Merci.
Vous savez que l'on aime aller d'un thème à un autre dans cette émission, particulièrement sur la première partie pour engager le débat. Abordons la question de l'Europe. Et je voudrais vous présenter le livre « L'Europe, un État qui s'ignore ». Nous sommes en 1950. 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des millions de morts, des atrocités insoutenables, des haines féroces que nous pouvons difficilement imaginer, nous, les générations d'après le cauchemar. Et pourtant, 6 pays vont se regrouper pour constituer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. 80 ans après, 22 autres les ont rejoints. Et Sylvain Kahn, historien, géographe, nous invite à une réflexion sur la spécificité de l'Union européenne. S'agit-il d'un État, d'un simple conglomérat opportuniste et dans un style particulièrement accessible? Il nous rappelle que cette construction et surtout l'évolution des relations entre les peuples et les États s'est construite au fil du temps. Pour lui, un des apports de l'Europe est bien que plus aucun peuple n'attend de son État une politique impérialiste de conquête et de puissance. En Europe, bien sûr. Ne versons pas dans la naïveté. Les débats sont parfois tendus, les blocages nuisent aux avancées, mais personne ne songe à une guerre entre Européens pour en sortir. Avons-nous oublié les morts d'hier? Sans doute pas. Mais songeons à la période de guerre froide qui conduisit à raccrocher la République fédérale d'Allemagne et à garantir le charbon et l'acier à l'Ouest. Il s'agissait de matières premières, de reconstruction des économies, mais aussi de guerre. S'agit-il d'un État supranational, cette Europe? L'auteur s'appuie sur 3 défis pour montrer la réactivité de l'Europe. 3 crises. Le Brexit, le Covid, l'agression de l'Ukraine. Dans ce dernier cas, la violence, l'atteinte au droit international sont produits évidemment par Poutine et non l'Europe. Le Brexit provoque une crise, surtout pour les Britanniques qui n'osent pas s'en mordre officiellement les doigts, mais la réalité est là, les faits sont têtus. Et le 2020, l'Union européenne adopte un plan de relance. Ni État territorial, ni État non territorial, elle se distingue par une stimulante singularité, une mutualisation démocratique se construisant dans les crises. Et si les Européens ne forment pas une nation, ils constituent une société. Le traité de Maastricht transfère des compétences régaliennes des États vers l'Europe. Auparavant, des politiques communes telles que la PAC, la politique agricole commune, avaient déjà organisé des évolutions des territoires. Et de plus en plus de pays cherchent à rejoindre cette zone de stabilité. Une idée neuve au regard du temps long, d'où l'intérêt de la géohistoire. C'est ce concept très intéressant. Et Sylvain Kahn reprend l'histoire de l'Europe, un territoire transnational qui inclut des territoires nationaux. En se mobilisant, on voit que les empires, les États-nations, les États locaux, les réseaux, le tout sans violence, se réalise à la différence de la Russie qui allie colonisation, violence et impérialisme. Staline, Poutine, même approche. L'Europe, pour l'auteur, c'est une volonté de vivre ensemble, une forme d'acculturation et non d'annexion. Je conclurai cette présentation par les propos optimistes de Sylvain Kahn. En fait, il nous semble que l'Union européenne figure une tentative résolue et assumée d'inventer une étaticité, c'est-à-dire un État qui n'est fondé ni sur la puissance ni sur la nation, et l'Union européenne est fondée sur la conviction que la société a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans la confrontation entre les égoïsmes nationaux. Fin de citation. Certes, cette approche ne reflète guère une société anarchiste sans État, c'est évident. Toutefois, il m'a semblé nécessaire de verser ce livre au débat, car certaines notions, comme la géohistoire, le vivre ensemble, les relations Est-Ouest, l'acculturation, constituent une part essentielle de notre vie et méritent débat entre nous. Déjà, Sylvain Kahn, L'Europe, un État qui s'ignore, CNRS Édition, en 2025. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Nous allons aborder la question du spartakisme, des événements qui d'ailleurs ne sont pas dépourvus de tout lien avec la Commune de Paris. Vous écouterez l'entretien. Et surtout, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale et le rejet de la guerre est puissant en Allemagne pendant ce conflit. Écoutez, on va laisser l'immense Marlène Dietrich chanter « Sag mir wo die Blumen sind ». Vous excuserez mon accent. Et sans transition, nous écouterons après Anne Defarge. En milieu d'interview, nous aurons, au moment où nous allons aborder la question de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, nous allons avoir un chant qui évoque d'ailleurs le combat et la mort de ces deux personnes, Auf zum Kampf.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
Bonjour. Bonjour Anne Desfarge, alors vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation allemande à l'université de Besançon et très récemment vous avez publié aux éditions Atlante un ouvrage intitulé « Allemagne 1918-1923, leçon d'une révolution fusillée ». Et dans votre livre, le lecteur revit les événements de novembre 1918 au sein de la société allemande. D'abord, ça, c'est intéressant parce que nous, en France, on a une vision très française. D'abord, ça, et le 11 novembre, etc. Après, il y a la fracture de la SFIO. On est très mobilisé sur ces questions-là en termes de livres. Et là, je trouve intéressant que votre livre aborde 1918-1923. Mais on va peut-être aller un petit peu avant parce que vous soulignez la dictature militaire qui a présidé à la Première Guerre mondiale et avec l'accord du SPD quand même. Alors, je dirais, avant que vous puissiez répondre, en gros, vous n'êtes pas sympa avec le SPD. On ne peut pas dire qu'au fil des pages, là c'est le cas de le dire dans votre livre, vous les attaquez, vous les remettez un peu en place, parce qu'on a toujours l'image d'un grand parti, etc. etc. Donc, classe ouvrière. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dictature militaire pendant la Première Guerre mondiale ?
Alors oui, effectivement, en Allemagne, au cours de la guerre, en fait, dès 1914, le pouvoir civil s'est effacé au profit du haut commandement des militaires. Et cela de plus en plus. Au plus tard, en 1916, on peut dire que c'est des militaires qui règnent en dictateur sur le pays. Et c'est vrai sur le front, évidemment, mais aussi à l'arrière. Et maintenant, concernant le SPD, ce qu'il faut rappeler, je pense, d'abord, c'est que c'était un parti ouvrier de masse qui, juste avant la guerre, comptait plus d'un million de membres, qui se réclamait de la révolution, du marxisme, de l'internationalisme, et qui était traité vraiment en ennemi, en pestiféré, par le pouvoir. Et ce parti avait recueilli en 1912, c'est-à-dire c'est les dernières élections avant la guerre de 14, voilà, ouais. Il avait recueilli 35% des voix. Donc c'était vraiment le premier parti. Le deuxième parti était loin derrière ce parti social-démocrate en nombre de voix.
Le deuxième parti était plutôt
à 16%.
16%, et c'était quoi, les grands propriétaires terriens?
C'était le centre, donc un parti.
Le centre, voilà. Le centre mou, là, oui. Et donc là, c'était un grand parti, oui, le parti, c'était le plus grand d'Europe en nombre d'adhérents, de militants, avec les syndicats très puissants.
Exactement, qui avaient créé les syndicats et qui influençaient directement les millions de syndiqués. Et qui avait 110 députés. Donc il y avait le plus gros groupe parlementaire de tous les partis. Et qui, juste avant la guerre, s'opposait à la guerre. Par des manifestations, par des déclarations, par des tracts, par ces mots d'ordre. Et donc ce qui est le premier choc, en fait, c'est que le 4 août, ce grand parti de masse décide d'approuver les crédits de guerre au Parlement.
Un peu comme la SFIO en France.
Oui, un peu comme la SFIO.
Il y en a un qui a été tué, donc il devient un symbole de la lutte. Mais sinon, Jules Guesde et compagnie, tout ça, ça va se vautrer dans la participation quand même.
Et donc un peu comme la SFIO, et en fait comme l'énorme majorité des partis socialistes européens.
Oui.
Donc, il n'était pas du tout le seul, mais étant le plus grand des partis sociaux-démocrates, ça lui donne une responsabilité.
Oui.
Voilà, et ça a été un choc ce parti-là fasse le choix d'approuver les crédits de guerre.
Et dès 1914, il y avait des opposants qui ont continué. Les spartakistes existaient déjà en 14.
Alors,
on ne les appelle pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, d'ailleurs, tiens, en deux mots, pourquoi les spartakistes? Spartacus?
Alors oui, Spartacus, mais donc ce n'est pas dès 1914.
Mais il y a cette sensibilité quand même.
Voilà, c'est la partie en fait la plus révolutionnaire du SPD, donc d'avant 1914. Un certain nombre de ses leaders décident de rester fidèles à l'internationalisme et donc à l'opposition à la guerre et fondent une première revue qui s'appelle Die Internationale, donc pour dire l'internationalisme.
International.
Voilà. Et puis ensuite, ces militants vont rédiger des tracts, vont rédiger d'autres écrits et à partir de 16, les lettres de Spartacus. Et effectivement, Spartacus, c'est la référence au gladiateur qui se bat, qui ne se couche pas, qui ne renonce pas. Et c'est ce qui va donner ensuite le nom groupe Spartacus, mais plus vers la fin de la guerre.
Alors, ils sont minoritaires, enfin, au moment, en 1914, là, au moment du vote, ils sont minoritaires au sein du groupe parlementaire SPD. Ils sont combien, tout de même? On a déjà Rosa Luxembourg, on a Liebknecht, on a...
Alors, parmi les 110 députés, on a au début une quarantaine, donc un tiers...
Quand même.
De députés qui s'opposent, qui ne sont pas, qui n'ont pas envie d'approuver les crédits de guerre. Donc ça va être des grosses discussions entre eux. Et finalement, il reste 15 à s'opposer au crédit de guerre, à l'issue de ces discussions assez vives. Mais au nom de la discipline de vote, de la discipline de parti, cette minorité révolutionnaire, internationaliste, va se plier. Et au fond, le 4 août, l'un des drames, c'est que c'est l'unanimité des députés sociaux-démocrates qui vont voter pour les crédits de guerre, donc y compris Karl Liebknecht, qui, le soir même, va dire qu'il regrette profondément
oui,
que c'était une erreur.
Ça, vous le dites bien dans votre livre. Il dit, mais j'ai... Qu'est-ce qu'elle... Voilà. Pas dire quelle connerie, mais enfin, en gros, ouais, ça doit être ça. Hein.
L'international devrait être au-dessus oui. de la discipline
oui,
de parti.
Oui, il le dit.
Et
oui.
Il le dit, et dès le soir du 4 août, des militants se retrouvent autour de Rosa Luxembourg, que vous avez cité, donc, pour essayer de réfléchir aux mesures à prendre pour s'opposer publiquement à la guerre et à la politique de leur direction aussi.
Alors, pendant la guerre, en Allemagne, je ne savais pas du tout ça, il y a des grèves, les ouvriers et la population supportent mal les contraintes du conflit, et il y a déjà des gens, là, des militants de l'opposition, du SPD, qui se retrouvent à Kiental, à Zimmerwald, etc., pour essayer, avec d'autres Européens, socialistes, de préparer l'après.
Ouais, alors ce qui est impressionnant, c'est vrai, c'est que l'opposition à la guerre, le mécontentement, se font entendre en fait très rapidement. Donc dès début 1915, en mars, de premières manifestations de femmes pour le ravitaillement, pour avoir plus de produits alimentaires.
Ah oui, même pas un an après.
Même pas un an après. Six mois après, des femmes commencent à manifester. Assez rapidement, ça va être des émeutes de la faim, donc plus que des manifestations. Mmh. Et effectivement, une minorité donc, de militants restés révolutionnaires de la social-démocratie s'opposent à la politique de leur direction, essayent de faire vivre les idées internationalistes, s'adressent aussi aux militants des autres pays pour leur dire « mais la social-démocratie, c'est pas tout le monde enfin, ». Certains ne sont pas d'accord avec ces choix faits par la social-démocratie, et donc essayent de se réunir. Il va y avoir effectivement Zimmerwald et Kiental, mais aussi une réunion internationale de femmes opposées à la guerre. Une assemblée aussi de jeunes. Parce qu'en fait, l'aile marchande de l'opposition à la guerre, ça va être les femmes. Bon, peut-être qu'on pourra en reparler.
Oui.
Et la jeunesse aussi.
Tout à fait. Mais cette aspiration à la paix, vous le dites aussi, sera vécue comme un coup de poignard dans le dos par l'armée. Mais c'est pas si simple que ça, comme vous l'expliquez. On a l'impression qu'il y a comme un complot qui est en partie organisé par l'armée. Il y a un peu de ça, non ?
Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, il y a d'un côté donc, ce mécontentement qui augmente, donc des émeutes de la faim, des protestations, d'abord contre les conséquences de la guerre, et puis ensuite contre la guerre elle-même. Donc des grèves, faire grève à l'époque, c'est évidemment interdit. C'est puni de forteresses, d'emprisonnement. Pour les hommes, c'est puni par l'envoi sur le front.
Des milliers d'hommes qui ont été
envoyés sur le front parce qu'ils ont fait grève.
Et vraiment le front du front, c'est-à-dire là où on se faisait tuer dans la semaine qui suivait qu'on arrive.
Exactement, souvent avec une mention sur le livret militaire pour dire attention gréviste, attention
révolutionnaire,
et donc des conditions particulièrement dures. Et pourtant, l'opposition à la guerre va continuer à se faire entendre et va s'intensifier au fil de la guerre. Et il y a une étape qui est importante, je vais répondre, mais une étape qui est importante, c'est le 1er mai 1916.
Ouais.
Et donc là, c'est Karl Liebknecht qui prend la parole. Donc c'est évidemment interdit de faire grève et de manifester un 1er mai en temps de guerre. Mais les révolutionnaires organisent la grève et la manifestation très discrètement, clandestinement. Et donc, Karl Liebknecht, là, s'écrit Potsdamer Platz, donc une place centrale de Berlin. Mmh. Il pousse le cri de « Abba ce gouvernement » et « Abba la guerre ».
1916,
le 1er mai.
Hein, et là, il est fait prisonnier. On n'est pas loin de Verdun, de la bataille de Verdun, quand même.
Et son procès va donner lieu à la première grande grève. Des dizaines de milliers de métallurgistes de Berlin se mettent en grève pendant le procès pour dire leur solidarité vis-à-vis de Liebknecht. Donc, est-ce que, pour revenir à votre question, est-ce que la révolution a été vécue comme un coup de poignard dans le dos? En fait, non. Ça, c'est une légende. C'est un mythe forgé par les militaires après coup. En réalité, la guerre à l'été 1918, elle est perdue. Et ça, les militaires
le savent. Oui, ils le savaient. Hein.
Voilà, ils le savaient. Depuis l'entrée en guerre des États-Unis, de toute façon, c'était devenu compliqué. Mais là, en 18, ce qui se passe, c'est des choses complètement incroyables. C'est-à-dire, c'est des soldats qui, non seulement désertent, mais qui refusent de combattre. L'ennemi est là, ils posent leurs armes, refusent d'aller au combat. Donc, pour l'état-major militaire, c'est évident que la guerre est perdue. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de l'arrêter sans trop de dégâts pour l'armée.
Donc, comment pour l'honneur de l'armée.
Voilà, pour l'honneur.
Bien sûr.
Exactement.
Hein,
voilà.
Bon, qu'il y ait des morts, c'est pas grave, mais qu'il y ait l'honneur de l'armée.
Tout à fait, qu'elle reste entière. Et donc, c'est après coup. Donc, l'armée, elle organise, en fait, cette défaite. Et là, elle propose aux civils de prendre un peu plus de pouvoir pour organiser cette défaite. Et d'ailleurs, c'est des militaires qui vont être à l'origine de la proposition au SPD d'entrer au gouvernement, ce qui est une première en Allemagne, fin 1918.
Oui, le SPD, c'est la première fois qu'il va rentrer au gouvernement pour gérer la fin de la guerre,
pour
en gros.
Ça. Voilà, exactement. C'est complètement un cadeau
calmer
empoisonné.
Les
Mais d'abord pour vraiment faire des propositions de paix et pour et ensuite après coup après le déclenchement de la révolution, là les militaires vont inventer cette légende d'une armée invaincue mais qui aurait été poignardée dans le dos par les
par
rouges,
le pouvoir,
les républicains, les révolutionnaires,
voilà, les civils, etc., etc. Hein. Alors nous en France, évidemment, c'est la fin de la guerre. Bon, mais que s'est-il passé le 9 novembre 1918 en Allemagne?
Alors, un peu avant, dire fin octobre, la nouvelle des pourparlers d'armistice est connue, mais des amiraux exigent que la flotte fasse une sortie en mer du Nord pour leur honneur, vraiment pour leur honneur. Donc en sachant que c'était la mort quasiment assurée pour les marins.
Pourquoi?
Et que la guerre... Parce que du point de vue des sous-marins, du point de vue de cette guerre-là,
c'est ça. Il y avait déjà
plié depuis,
les Américains étaient arrivés,
exactement.
Etc. Bon, d'accord.
Et donc, voilà, c'était sûr que c'était vraiment pour l'honneur de quelques amiraux. Et là, les marins se révoltent et puis, de fil en aiguille, comprennent que soit ils transforment cette révolte en quelque chose d'encore plus grand... Ou alors ils vont être massacrés, comme ça a déjà été le cas pendant la guerre.
Il y a un côté Kronstadt, là.
Pardon ?
Il y a un côté Kronstadt.
Potemkin,
etc. D'accord. Enfin, vous voyez, c'est les révoltes, les marins sont à cette époque-là.
Tout à fait, qui ont envie de vivre. Mais cette mutinerie, elle va se transformer en coup d'envoi de la révolution. En fait, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que la révolution se répand, mais comme une traînée de poudre.
Oui.
Du nord au sud de l'Allemagne en quelques jours, gagne les grands ports du nord, puis l'ouest de l'Allemagne, le sud, la Bavière, le centre, et arrive à Berlin, en fait, après avoir vaincu dans tout un tas de régions, dans plusieurs Länder. Les monarques sont tombés, ont abdiqué très rapidement partout, parce qu'il y a des monarques partout, c'est un pays fédéral. Et donc le 9 novembre, c'est le tour de Berlin.
On est à Berlin et là, ça y est.
Ça y est à moitié, parce qu'en fait, l'empereur Guillaume II refuse toujours d'abdiquer, se cramponne au pouvoir, ne prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se passer. Mais il est abdiqué par son chancelier, ce qui est complètement un non-sens du point de vue de...
Sur le droit, c'est assez baroque,
Mais il l'abdique, et donc l'empereur s'enfuit, et là, la République est proclamée deux fois par un dirigeant du SPD gouvernemental, Scheidemann, et par le révolutionnaire Karl Liebknecht. Donc à quelques heures d'intervalle, tous deux proclament l'un la République, l'autre une République socialiste.
que j'ai noté, je l'ai dit d'ailleurs, je le dirai, reviendrai dessus un petit peu plus loin, c'est que j'ai l'impression, enfin, j'ai trouvé beaucoup d'écho en lisant votre livre avec les événements de la Commune de Paris, quand même, hein, parce que là aussi, on a cette République d'Adolphe Thiers, et puis on a la République de la Commune de Paris, quoi. C'est assez marrant, c'est assez intéressant de voir tout le long de votre parcours. Et puis là, est-ce que c'est à ce moment-là que Rosa Luxembourg parle de demi-révolution?
Alors peut-être sur le premier aspect, non, c'est là. Enfin,
c'est là, hein,
dès novembre-décembre. Mmh. Sur la commune, c'est vrai que c'est comme s'il y avait tout un tas de communes partout dans le pays,
oui,
en fait. Et Rosa Luxembourg, c'est vrai, parle de demi-révolution. Alors, elle a passé pratiquement toute la guerre en prison, en détention préventive, Rosa Luxembourg, et c'est la révolution qui l'a libérée. Et elle arrive à Berlin, elle est enthousiaste, bien sûr, mais elle veut insister sur le fait que pour elle, c'est seulement là le début de la révolution.
Oui.
Donc le début d'un processus qui va être long. Et pourquoi elle dit ça? En fait, ce qu'elle dit, c'est que pour l'instant, c'est l'ordre ancien qui s'est effondré, mais que pour construire vraiment un ordre nouveau, il faudrait que les anciennes structures ne soient plus en place.
Oui.
Donc les anciennes structures, c'est les généraux sont toujours là, en fait. Un certain nombre des anciens ministres, la police... tous les mêmes hauts fonctionnaires sont restés en place. Et donc,
alors, ils sont où? Ils ne sont pas à Versailles, ça c'est chez nous. Ça, mais ils sont où? Alors, où sont-ils?
Ils sont à Berlin.
Ils sont à Berlin.
Là
où on a mis en place le système révolutionnaire spartakiste, en fait. Là, on peut parler des spartakistes.
Mais on peut, en fait, il y a un double pouvoir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un gouvernement avec des représentants, des responsables du SPD et de l'USPD, le Parti social-démocrate indépendant, mais aussi
l'indépendance, c'est celui qui est semi-révolutionnaire.
C'est un conglomérat en de différentes nuances, différentes tendances, mais qui inclut les révolutionnaires, qui inclut Spartacus, mais c'est un mélange. Mais en fait, elle parle de demi-révolution aussi pour dire attention, il faut qu'on continue dans un contexte où ce SPD au pouvoir passe son temps à répéter que ça y est, le socialisme est en marche, que lui-même va introduire le socialisme, et que donc les travailleurs peuvent rentrer chez eux. Qu'il faut l'ordre, maintenant le calme.
Voilà, et que, laissez-nous gérer.
Voilà, c'est ça, il faut s'en remettre à nous. Et donc elle parle de demi-révolution pour dire non, il faut qu'on continue.
Il faut aller plus loin.
Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, on parle souvent de Rosa Luxembourg disant ça, mais en fait les adversaires de la révolution, eux aussi plus tard, ont souvent parlé de demi-révolution. Et eux, c'était un sens complètement différent de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, c'est un sens militant, c'est pour dire qu'il faut qu'on continue. Mais les adversaires de la révolution qui en ont parlé plus tard, c'était l'inverse. C'était pour dire, mais regardez, c'est simplement un effondrement. Il n'y a pas eu vraiment de révolution en Allemagne. Et donc, nier la révolution, c'est une manière de la calomnier un petit peu. Et puis finalement, de dire, s'il n'y en a pas eu... C'est pas un sujet. Et c'est vrai que cette révolution, elle a été largement oubliée, effacée des mémoires pendant des décennies. Ça faisait partie de cette stratégie de nier la révolution. Est-ce que je peux citer Sebastian Haffner, un historien allemand qui montre en quoi c'était vraiment une révolution? Parce que je trouve que c'est une... c'est une citation qui est... Il a écrit un très bon livre, lui, sur 1918.
Oui, alors, il a fait un livre aussi sur... quand il montre comment le nazisme va monter... Le titre m'échappe à l'instant.
C'est l'histoire d'un Allemand.
Voilà.
Et il raconte, en fait, lui-même, jeune homme, comment il vit les premières semaines, les premiers mois de l'arrivée au pouvoir de...
Et quand il comprend qu'il faut qu'il parte.
Voilà, et il va partir
Là, on n'en est pas là... Ça, c'est votre prochain bouquin, là. Vous allez parler, c'est votre prochain bouquin. Mais là, sur ce... Que dit-il, Haffner?
Alors, lui, il s'inscrit en faux en disant « si, c'est une vraie révolution ». Il répond, en fait, aux historiens qui minimisaient. Donc, je le cite. Il dit « c'était un tremblement de terre qui, en novembre, secoua tout le pays, toute l'armée présente dans le pays, toute la classe ouvrière des villes. En Bavière, également une partie de la population des campagnes. » Donc, lui, il parle du changement de régime. Il parle de la fin de règne des Hohenzollern, qui était la monarchie qui était en place pendant des siècles. Et donc, il montre qu'une révolution qui entraîne des millions de personnes, qui est créatrice, qui a créé notamment les conseils d'ouvriers et de soldats, puis de chômeurs, de femmes, etc. Enfin, que tout ça donne un caractère évidemment révolutionnaire aux événements de novembre décembre 1918.
Alors, vous disiez tout à l'heure, oui, il y a plein de petites communes qui se sont créées en Allemagne. C'est d'ailleurs la différence avec 1871, c'est qu'on n'a pas réussi, hormis à quelques endroits, mais ça n'a pas duré très longtemps. La plus longue, ça a été une semaine, 15 jours à tout casser à Marseille. Mais on n'a pas réussi à s'étendre hors là. J'ai l'impression qu'il y a des conseils, et même en Bavière, d'après ce que j'ai pas l'impression que la Bavière, aujourd'hui, ça soit un endroit particulièrement révolutionnaire. Alors, comment s'organisent les conseils ? Parce que nous, pour les anars, ça nous intéresse bien quand même, ça.
C'est des milliers de conseils qui voient le jour à
comme
travers
ça.
Tout le pays. Ouais, comme ça. 10 000 conseils.
Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas l'AIT, l'Association internationale des travailleurs n'existe pas.
Non, c'est un mouvement puissant, spontané, y compris de toutes petites villes.
Ouais.
Bon, voilà, c'est vraiment le pays entier qui se couvre de conseils et c'est un mouvement irrésistible. C'est-à-dire que les militaires, la direction du SPD vont choisir de ne pas s'opposer, voient que c'est impossible en fait de s'opposer de front à un mouvement qui part de la base comme ça. Mais par contre, ce que le SPD, ce que des officiers vont faire, c'est d'essayer de se faire élire dans ces conseils.
Ah voilà, donc, alors comment est-on désigné pour faire partie des conseils là ?
Alors, les conseils, c'est vraiment une mosaïque. Donc, il y a tout un tas de situations différentes, très disparates. Donc, dans certains conseils, on est élu. Donc, des conseils d'ouvriers, par exemple, des travailleurs qui avaient l'estime de leurs collègues, ou des travailleuses, des ouvrières, qui avaient l'estime de leurs collègues pouvaient être élus pour cette raison-là.
Les femmes aussi pouvaient être élues ?
Oui, les femmes aussi pouvaient être élues.
Non, mais c'est pas le cas partout. J'ai la difficulté pour les femmes d'être active dans le syndicalisme français, par exemple. On a une vieille conception proudhonienne, il faut quand même bien le dire, de dire la femme, elle était à la cuisine.
Tout à fait. Et c'est vrai que les hommes avaient un petit avantage.
Ouais.
Parce que souvent, justement, ils étaient à l'usine depuis plus longtemps, avaient plus de tradition de lutte syndicale, d'organisation. Donc, je ne dirais pas que c'était l'égalité. Hein. Mais elles pouvaient être élues, et certaines ont été élues dans les conseils. Donc, elles étaient présentes. Donc, ça, c'est une manière. Parfois, quand le SPD voit qu'il n'a pas la majorité, il va proposer une représentation paritaire. Donc, dire les responsables des différents partis ouvriers, on est désignés de manière paritaire, donc à égalité, ce qui est une manière de mettre les révolutionnaires en minorité.
Oui, c'est une démarche bureaucratique assez classique dans les orgas. Oui, ça,
voilà,
c'est...
et donc il y a différents cas de figure, et donc différents conseils en conséquence. Certains conseils, quand ils sont dirigés par le SPD, ou quand il n'y a pas de révolutionnaires, vont se cantonner à des tâches techniques, administratives, des actions pratiques. Mais d'autres conseils, y compris dans certaines grandes villes, à Brême, à Stuttgart, et dans certaines régions aussi, d'autres conseils vont vraiment prendre en charge toute la vie économique, c'est-à-dire décider dans les usines combien de temps on travaille par jour. Et on arrête le travail au bout de 8 heures, effectivement. Quels sont les salaires ? Ils vont aussi organiser la vie sociale. Donc organiser la démobilisation, organiser le ravitaillement, que l'alimentation arrive de manière équitable dans toutes les familles. Ce qui était une question importante à ce moment-là. Vont organiser la démobilisation. Vont bientôt organiser aussi des gardes de protection, donc des milices populaires, par exemple. Donc ces conseils sont vraiment très disparates.
Mais ça me fait penser, là, on va sortir un peu de la commune, ça me fait penser à la Catalogne et par la CNT, et la manière dont la CNT et la FAI vont gérer, et les communautés, la gestion des entreprises, etc. Ah, oui, ça c'est quand même assez intéressant. Et là on est 1918.
Et alors justement, si je peux me permettre là-dessus, en fait, dans les périodes de remontée ouvrière, en 1920, en 1923, il va y avoir ce genre de phénomène-là, ce que vous venez de dire. Les conseils qui vont renaître à chaque remontée ouvrière vont parfois prendre en charge, dans la Roure, par exemple, la socialisation. C'est-à-dire dire maintenant, on arrête d'attendre que le gouvernement le fasse. Donc maintenant, les mines, les grandes entreprises sidérurgiques ou d'électricité,
c'est nous
gérons, qui organisons, qui nous en occupons. Et donc, effectivement, sans attendre d'instruction, sans attendre d'autorisation, ils vont dire, voilà, maintenant, on le fait.
Et en Bavière, alors, c'est quand même, il s'est passé des choses intéressantes en Bavière.
Oui, tout à fait.
Que s'est-il passé ?
Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Bon, si on résume, peut-être ce qui est marquant, donc, c'est que le roi abdique avant le 9 novembre, donc avant les événements à Berlin, et qu'un membre du parti indépendant, donc le Parti social-démocrate indépendant, l'USPD, qui s'appelait Kurt Eisner, qui était un membre du SPD avant la guerre, mais qui était révolté. Lui, son point de départ, c'est la révolte contre la poursuite de la guerre. Et donc, qui proclame dès le 8 novembre la République de Bavière. Et qui proclame, alors ça c'est assez drôle, unilatéralement, donc peu importe ce que dit Berlin, nous en Bavière, nous proclamons la fin de la guerre. Pour nous, c'est terminé. On arrête la guerre. Mmh. Et donc, c'est important de s'en rappeler, parce que cette aspiration-là, à la paix, à arrêter les combats, c'est quelque chose de vraiment important dans le début de cette révolution. Et ce Kurt Eisner, il va être assassiné quelques mois plus tard, début 1919, donc déjà par un militant d'extrême droite à l'époque. Et ça va faire renaître une colère ouvrière, une colère de la part de travailleurs socialistes ou communistes. Et donc là, on va avoir ensuite, suite à cette remontée ouvrière, en fait, deux républiques des conseils successives en Bavière. Et donc, une première qui avait la particularité d'avoir à sa tête des intellectuels et des écrivains, des militants de l'USPD aussi. Et enfin, d'ailleurs, ces artistes, ces écrivains étaient parfois militants de l'USPD, donc le Parti indépendant. Mais ces militants étaient entre anarchisme, communisme, expressionnisme. Donc, il y a des noms qu'on connaît comme Erich Mühsam, jusqu'à aujourd'hui Gustav Landauer, Ernst Toller, l'écrivain Traven aussi, qu'on connaît pour ses romans qui se passent au Mexique. Donc ces gens-là étaient ulcérés par la politique du SPD à Berlin, de la direction du SPD. Ils étaient sincères. Eux, ils étaient pour des relations avec l'Union soviétique. Et ça, c'est important parce que c'était un peu une ligne de partage entre les militants. Mais c'était plus des artistes, disons, que des dirigeants politiques qui... C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se préparer à ce rôle de dirigeant politique. Et ils n'étaient pas complètement conscients de la guerre féroce que les contre-révolutionnaires allaient mener aux révolutionnaires. Et donc ce gouvernement tombe et l'armée, accompagnée de dirigeants du SPD, attaque Munich, attaque ce gouvernement, ce qui va provoquer une vraie remontée ouvrière, une vraie colère ouvrière. Et cette fois, les conseils s'organisent par la base. Et la classe ouvrière, là, en Bavière, c'est vrai que c'est étonnant, vu d'aujourd'hui, mais va se tourner massivement vers le jeune parti communiste, le KPD.
Après, oui.
Voilà. Et là, le KPD, sachant que les chances de succès d'une République des conseils sont très minces, sont vraiment minimes, va décider de se mettre, d'accepter, de jouer le jeu, de prendre la tête de cette nouvelle République des conseils. Des villes comme Munich, Nuremberg, enfin les grandes villes, sont pleinement partie prenante de ce mouvement. C'est un mouvement qui est profond, qui est large, qui est déterminé. Les campagnes, elles, sont beaucoup plus réticentes en Bavière. Mais en fait, là, ça va être la répression la plus violente de tout ce qu'on a connu jusque-là dans la révolution allemande. C'est-à-dire, c'est encore plus violent que ce qui s'est passé en mars 19 à Berlin, ce qui s'est passé en janvier 19 à Brême, qui était déjà très violent. Donc, les corps francs vont entrer en Bavière avec l'armée. Donc les corps francs, ce sont...
On peut en parler dès maintenant, si vous voulez. Donc les corps francs, qu'est-ce que c'est? C'est les soldats du front qui rentrent du front?
En fait, c'est le SPD qui, dès la fin de 1918, qui se rend compte qu'il ne peut pas s'appuyer sur les troupes qui reviennent du front, qu'il ne peut pas s'appuyer sur les soldats, et qui va décider de créer un corps nouveau de paramilitaires, en fait. Et qu'on a appelé les Freikorps, donc en français les corps francs. Donc ce sont d'anciens officiers, des soldats, des étudiants aussi d'extrême droite, et l'extrême droite en général, hein, qui sont payés donc pour combattre la révolution. Donc, d'ailleurs, ils étaient appelés les gardes Noske, longtemps. Pour Noske, c'était un dirigeant du SPD. Ouais. Donc ça montre bien que c'était... Aujourd'hui, on a l'image de corps d'extrême droite. Ça, vraiment, c'est une émanation de la social-démocratie, du SPD.
Si les auditrices et les auditeurs ont bien compris que Anne ne supporte pas le SPD. Hein, si c'est, vous n'avez pas compris ça.
Mais je trouve que c'est tellement incroyable.
Oui, c'est incroyable.
Ce parti internationaliste, oui, qui était pour la révolution, et qui passe complètement de l'autre côté et s'oppose violemment à la révolution. En fait, c'est tellement difficile à admettre que...
Et alors, il y a...
Et donc, oui, ces corps francs vont assassiner, en fait, les dirigeants de la République de Bavière. Je voulais juste dire
de
ça.
De Bavière, oui.
Et donc, Landauer, qui est assassiné, Eugen Levinet, des militants qui sont assassinés. Il y a 1000 personnes qui ont été tuées. On a parlé à l'époque de terreur blanche, parce que pour la première fois, c'est l'usage d'une terreur aveugle, y compris des gens qui n'étaient pas du tout des combattants, qui n'avaient rien à voir dans ces combats, qui ont été tués. Et c'est après ça que la Bavière a été gouvernée par des gouvernements toujours plus rétrogrades, puis réactionnaires, et que c'est devenu en fait le terrain d'entraînement de l'extrême droite. C'est-à-dire que, dès cette époque-là, des militants d'extrême droite qui étaient recherchés ailleurs en Allemagne trouvaient refuge en Bavière. Et ça a été le terrain d'entraînement des nazis.
Oui, bien sûr. Oui, oui, parce que les noms, d'ailleurs, que vous évoquez, quand on dit Munich, quand on dit Nuremberg, ça fait froid dans le dos. Moi, c'était des moments révolutionnaires, mais après, ça a été terrible. Est-ce que ce sont les corps francs qui vont aussi assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht?
Oui, tout à fait, oui.
Pendant la semaine, ça a duré une semaine, ce massacre-là?
Oui, en fait, dès décembre 18, donc un mois après le début de la Révolution, on a des premières tentatives de putsch d'extrême droite, hein, de militaires, contre eux. Et dès novembre, décembre 18, dans les rues de Berlin, on a des affiches appelant à tuer Liebknecht, à tuer Rosa Luxemburg.
Et comment ça s'est déroulé, alors?
Et Rosa Luxemburg écrivait à ce moment-là, en fait, on essaye de créer une ambiance de pogrom pour nous isoler, pour ensuite pouvoir nous tuer. Oui. Elle avait tout à fait conscience de ce qui se tramait. Et donc, comment ça s'est déroulé? En fait, il y a une provocation du gouvernement pour faire réagir la classe ouvrière. Et donc, ensuite, une montée de colère ouvrière à Berlin. Et donc, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg sont cachés chez des camarades. Et leurs têtes sont mises à prix dans Berlin. Hein. Et on offre tant et tant de dizaines de milliers de marques pour
donc y a toujours un
leur capture. Et des corps francs les ont découverts. Ouais. Et ce qui était. Hein, l'étau s'est resserré autour d'eux. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les corps francs ont appelé Gustav Noske. Donc l'un des dirigeants sociaux-démocrates, qui a donné son accord pour l'assassinat. Donc ils ont été assassinés tous les deux dans la nuit même, sachant que les corps francs ont plus essayé ensuite de déguiser, de maquiller ce meurtre, en parlant d'une foule qui aurait lynché Rosa Luxemburg, ce genre de choses. Et alors, bon, voilà, vous allez dire que j'en ai contre le SPD.
Non, ça y est, on l'a compris, c'est bon.
Mais c'est vrai que le SPD a ensuite protégé les assassins.
Les assassins sont impunis.
Voilà. Non, ils ont été. Certains ont été inculpés, jamais de meurtre, au maximum de coups et blessures. Ils ont été jugés par leur père, par leurs amis, par un tribunal militaire, et ils ont été libérés très très rapidement.
Ouais. C'est un peu ce qu'on peut noter, c'est que c'est l'assassin de Jaurès, lui aussi, a été déclaré, allez hop, il n'y a rien à voir. Quoi. Bon, il finira par être assassiné, tué, ça ne me dérange pas, de par les anarchistes, quand il s'est réfugié en Espagne, il finit.
Wir haben dies geschworen, der Rosa Luxemburg. fürchten nicht, ja nicht, die neue Polizei. In Karlsruhe haben wir verloren, die Rosa Luxemburg, die Durchmörder waren. In ein Mann, so fest wie eine Eiche, die hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfen geht.
Et alors, en 1919, on a des grèves, on passe à des grèves économiques. Alors, il y a des grèves politiques et il y a des grèves économiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec les grèves économiques ?
Au début de 19, un peu partout, donc, par exemple, en même temps que se déroulent les événements de Berlin, dont on vient de parler, il y a une remontée ouvrière à Brême et en Allemagne centrale. Donc, puis, un peu plus tard, dans la Ruhr. Et où cette fois, les travailleurs voient qu'il ne suffit pas d'avoir un gouvernement avec
des SPD,
voilà, SPD socialistes, mais qu'en fait, pour que les choses changent, il va falloir prendre en main eux-mêmes. Et donc là, c'est les revendications de socialisation des branches de l'industrie lourde, notamment, et des plus grandes entreprises, de la réquisition des entreprises. Un certain nombre de patrons étaient partis. Et donc, au moins, ces entreprises-là, on les réquisitionne et de les faire tourner
dans la Ruhr, notamment.
Et donc, de ne pas se contenter de changer un peu les membres du gouvernement, mais d'essayer de faire en sorte que la vie concrète, donc la vie économique,
ça fonctionne, quoi.
Voilà, ça fonctionne, voilà. Et pas seulement pour quelques entrepreneurs, mais pour la population.
Alors, on a un putsch en 1920.
Alors, on a aussi déjà un putsch en 1920.
C'est vraiment... Enfin, je pense que les auditrices, les auditeurs, là, sauf à être vraiment des spécialistes, enfin, moi, je découvre ça. Il y a eu un putsch. L'armée, les corps francs, un peu de tout.
Alors, il y a une répression donc très dure dans la première moitié de 1919. Et on peut dire qu'à l'été 1919, les militaires et le pouvoir sont redevenus maîtres de la situation. Et donc, fin 19... Tout ce monde-là, et notamment les militaires, se disent que la population a été suffisamment matée et que donc il est temps de revenir complètement en arrière, donc de renverser la République, et que les mesures qui avaient été cédées pendant la Révolution, donc la République, les 8 heures de travail, droit de vote des femmes, voilà, que tout ça, on revienne en arrière là-dessus et qu'on revienne à une situation, en fait, comme pendant la Première Guerre mondiale, de dictature par l'armée. Et alors, ce qui est frappant, là, c'est que ce putsch militaire, il se prépare quasiment ouvertement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ces préparatifs. Les militaires s'en vantent dans leur presse. Les préparatifs avec les corps francs se font quasiment ouvertement. Mais le gouvernement, donc dirigé par des sociaux-démocrates,
c'est Ebert.
Ne réagit pas, ne prend aucune mesure. Et à la nouvelle le 13 mars... Ce gouvernement apprend que des colonnes de corps francs sont en route vers Berlin. Que fait le gouvernement ? Il s'enfuit le plus loin possible de Berlin. Et donc le putsch réussit avec une facilité déconcertante. Pratiquement pas un coup de feu. Et donc Kapp et Ludwitz, un civil et un militaire, s'installent au pouvoir, se nomment eux-mêmes chanceliers, s'installent à la chancellerie et disent qu'ils ont pris le pouvoir. Et dans les heures qui suivent, une immense grève générale va
paralyser le pays.
Et paralyser le pays.
D'accord.
Et tellement le paralyser que ce gouvernement autoproclamé ne peut plus rien faire. Il est complètement paralysé. Il ne peut plus donner un ordre. Il s'éclaire à la bougie. Il ne peut plus faire passer
un message.
Il peut plus, tout est complètement paralysé.
Tout
est donc, c'est l'une des plus grandes grèves générales du pays. Et donc, en 5 jours, ce gouvernement putschiste négocie sa propre reddition.
Moi, je crois qu'il n'est pas réprimé, d'ailleurs.
Et il n'est pas,
il n'est pas réprimé.
Il arrive à négocier. Et pire que ça, le gouvernement, dès qu'il revient en place à Berlin, va discuter avec les militaires parce que, en fait, de combattre le putsch et de faire tomber les putschistes si rapidement a redonné confiance en elle à la classe ouvrière et donc va donner lieu à une remontée ouvrière assez spectaculaire. Donc, notamment, mais pas seulement, dans la Ruhr se créent des conseils ouvriers avec les revendications là dont on parlait, de socialisation, avec une armée rouge de la Ruhr qui se crée pour arrêter de reculer et pour cette fois défendre les acquis de la révolution et continuer la révolution. Et en fait, le gouvernement tout juste remis en place va avoir plus peur de cette remontée des conseils ouvriers, de cette remontée ouvrière que des putschistes. Mmh. Et donc va s'appuyer sur les putschistes d'hier, sur l'armée, sur les corps francs, pour combattre cette remontée ouvrière, pour la mater, pour la briser, et pour finalement voilà, mettre fin à cette remontée ouvrière.
Est-ce qu'on peut considérer que les sociaux-démocrates n'avaient qu'une peur, c'est la puissance du Parti communiste et le poids de l'Union soviétique?
Alors, je pense qu'en 1920, à ce moment-là, ils ont plus peur de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier.
Ouais.
Pas uniquement, mais je pense que c'est plus ça que du KPD au sens strict. Le KPD, à ce moment-là, il n'est pas encore, c'est pas encore un parti de masse.
Il existe là,
il 1920 existe, dès tout début 1919, hein, juste avant l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Ils ont créé ce parti, donc un petit parti de plusieurs dizaines de milliers de membres. Donc c'est pas petit comme ce qu'on imagine aujourd'hui, mais dans les événements, c'est pas encore lui qui joue le rôle principal, il joue un rôle important. Mais en fait, il va devenir un parti de masse à la fin de 1920. Donc après ces événements-là, du putsch de Cap, l'aile gauche de l'USPD, donc du Parti indépendant, et ce Parti communiste vont s'unir, vont fusionner. Et là, pour la première fois, on va avoir un Parti communiste de plusieurs centaines de milliers de membres. Et après ça, effectivement, on peut dire que les dirigeants sociaux-démocrates ont peur de ce parti. Et juste pour la première partie de votre question, la peur de l'Union soviétique, à ce moment-là, en 1920, on est 2 ans... après la révolution russe, et c'est sûr que cette peur, elle est très présente partout.
Ah, c'est ce qu'on va ressentir, surtout que nous, 1920, il y a le congrès de Tours en France, enfin bon, il y a une... Puis en Italie, etc., enfin, ça se structure. Mais que fait l'Union soviétique pour aider les militants qui se font canarder par l'armée? Ils envoient des armes, ils envoient de l'argent, ils envoient... Que fait l'Union soviétique? Il n'y a pas Radek dans cette affaire?
Il y a Radek, c'est vrai. Radek revient de Russie, à Radek. Ce qu'on peut dire, je pense, d'abord, peut-être, c'est que si la population d'un pays a vraiment salué avec un énorme enthousiasme novembre 18, c'est la population d'Union soviétique. C'est-à-dire ça a vraiment soulevé un immense espoir.
Sauf
et puis en 19
en
et en 1920... Pas encore, à ce moment-là. En tout cas, c'était l'espoir que une nation très industrialisée, très puissante, avec une classe ouvrière très nombreuse. En Allemagne, la classe ouvrière, à ce moment-là, c'est 80% de la population.
C'est énorme.
Et donc, de se dire que si l'Allemagne rejoignait l'Union soviétique, le partenariat des deux pouvait permettre vraiment de grandes choses.
Oui, ça serait uniquement la révolution, le socialisme dans un seul pays.
Alors ça n'avait pas encore été inventé.
Puisque l'idée, c'était on va propager les idées révolutionnaires et on s'appuyait sur l'Allemagne. Ils avaient plus confiance d'ailleurs dans l'Allemagne que dans un pays comme la France ou autre, en raison la masse de la classe ouvrière.
De la masse de la classe ouvrière, du passé aussi, de la classe ouvrière qui était combative, qui était organisée, et puis du déclenchement déclenchement de la révolution, effectivement, en novembre 18.
Et donc, que signifie la logique du front unique? Ça vient de qui, ça?
Le front unique, c'est une politique dans l'international communiste et là du KPD, donc du Parti communiste allemand, qui décide, en prenant acte du reflux et du fait que la révolution n'a pas réussi à l'emporter nulle part en Europe, en fait, hein, en 1921, la direction du Parti communiste voit que les ouvriers sont très nombreux dans les partis sociaux-démocrates et dans les syndicats, et n'ont pas rejoint encore le Parti communiste. Mmh. Et que donc, ce qu'il faut faire, l'essentiel, enfin le plus urgent, c'est de convaincre ces militants qui ont encore confiance dans la direction de leur parti, de les convaincre de rejoindre la révolution. Donc c'est en fait de proposer des actions communes à des militants sociaux-démocrates, du point de vue politique, par exemple contre des bandes d'extrême droite, du point de vue économique, dans des grèves, de militer ensemble, de travailler ensemble, d'avoir des actions ensemble pour essayer de démasquer la politique de la direction de leur parti, donc du Parti social-démocrate, et pour faire que des préjugés ou que des militants pouvaient avoir contre les communistes ou contre l'Union soviétique aussi, que ces préjugés soient petit à petit défaits. Que des militants rejoignent le combat pour changer le monde.
Et ça vient de l'international communiste, ça vient de Moscou. Enfin, c'est déjà le système qui se met en place pour essayer de rassembler les composantes de la classe ouvrière.
Tout à fait, mais c'est un moment où Moscou, c'est des conseils, on essaye de convaincre les militants. C'est pas un argument d'autorité à ce moment-là, en 21. Et donc ça va avoir cours jusqu'en 1923.
Alors
pour
justement,
l'Allemagne.
On arrive à 1923, quelle liaison. et alors là, il y a une crise économique, il y a une menace fasciste déjà, et puis il y a encore une répression.
1923, c'est une année très très dense, il se passe énormément de choses.
On ne pourra pas tout aborder, mais il faut absolument lire le livre d'Anne Defarge. Ça, alors là, il est à Publico.
Alors en 23, ça commence par l'occupation de la Ruhr, donc il y a un poumon économique de l'Allemagne, par les armées, par des troupes françaises et belges. Et donc l'occupation, on en a une image un peu réduite, je pense, en France. Pour l'Allemagne, ça veut dire une nouvelle frontière intérieure. Donc la Rhénanie était occupée déjà, mais là donc la Ruhr l'est, et donc ça veut dire aussi des violences par l'armée, y compris les violences sexuelles, ce dont on parle très peu ici aussi, c'est les humiliations, c'est par exemple l'occupation de tout un tas de bâtiments publics et privés par l'armée. Il n'y a plus d'école pour une grande partie des élèves de la Ruhr, parce que des soldats sont logés dans les écoles. Par exemple, c'est la déportation de 100 000 fonctionnaires et leurs familles vers l'intérieur, vers l'Allemagne, hors de la Ruhr. Parfois des bouclages du territoire qui sont hermétiques. Donc ni produits alimentaires, ni les personnes ne peuvent passer de la Ruhr à l'Allemagne. C'est ce genre de choses quand même, l'occupation. Et donc le prétexte de la part du gouvernement français, de ces points carrés à l'époque, donc c'était le paiement des réparations, en disant puisque l'Allemagne ne paye pas assez, on va se payer en nature, en charbon, sur la production. On va se servir. En fait, c'était largement un prétexte, cette histoire de réparation. En réalité, la France n'a jamais reçu aussi peu, ni de charbon, ni d'acier, ni d'argent, que pendant l'année de l'occupation, qu'en 1923. Bon, ça, c'est un aspect. Mais ce que disaient à l'époque déjà un certain nombre d'autres pays et les militants, c'est que l'objectif de la France était, du gouvernement français, était bien pire. C'était l'espoir de faire voler en éclats, en fait, le pays. Et on n'a pas été loin en 23. Donc, on a la Ruhr, on a la Rhénanie, on a Berlin. Donc, le gouvernement de Berlin, la Bavière, par exemple, n'écoute pas du tout ce que dit le gouvernement de Berlin, parle de faire sécession. On a l'Allemagne centrale, qui connaît une radicalisation ouvrière très très forte. C'est la Saxe et la Thuringe, aujourd'hui. Donc, une situation qui est difficile, parce que l'occupation, ça a donné lieu à une crise économique terrible, pire que tout ce que l'Allemagne avait connu. Une inflation, ça, on a peut-être un peu en tête.
Les brouettes.
Voilà, les brouettes de billets.
Je crois
de
qu'il
billets.
Y a une photo dans votre livre où on voit des gens avec des brouettes de billets, je crois.
Voilà. On se dépêche de dépenser ce qu'on vient de gagner avant que le salaire ne vaille plus rien.
Et il y a une menace fasciste, déjà ?
Et donc, il y a aussi une remontée du nationalisme à cause de l'occupation, une forte remontée du nationalisme. Pour la première fois, comme en 14, un sentiment d'union sacrée, que le patronat n'est pas... Enfin, le patronat fait tout aussi pour instrumentaliser ce sentiment. Et pour la première fois aussi, effectivement, les fascistes qui vont avoir des troupes plus nombreuses, qui vont, par des actes de sabotage, faire parler d'eux et montrer qu'eux sont les vrais défenseurs de l'Allemagne, des actes de sabotage contre les forces d'occupation. Et donc oui, pour la première fois, une menace que l'extrême droite réussisse à rallier des troupes massives.
Et là,
massives.
Ça sera la dernière... ça sera encore une répression. Puis après, on passera à autre chose.
Alors, en fait, tout ça, ça fait naître un désespoir.
Ouais.
Mais le désespoir, au début de l'été 1923, se transforme en autre chose, en révolte et en grève ouvrière. Et une grève générale qui va réussir en août 1923 à renverser en quelques jours un gouvernement qui apparaissait comme un gouvernement fort, un gouvernement qui était pour la première fois ouvertement pro-patronal, le gouvernement Kuno. Et donc, ce gouvernement, il est renversé. Et pour la première fois, là, à l'été, les militants du Parti communiste, ce parti donc de masse, vont avoir la majorité dans la classe ouvrière. C'est-à-dire que leur mot d'ordre de socialisation, il faut qu'on prenne le pouvoir complètement, sinon on sera toujours en danger qu'on nous reprenne tout, en fait.
Ouais.
Et sinon, la famine, la misère noire n'aura pas de fin. Et donc, pour la première fois, une majorité de la classe ouvrière à regarder du côté de ce parti communiste. Et oui, pour la question de tout à l'heure, là, l'URSS va envoyer de l'aide, l'aide technique, de l'aide un peu logistique, des armes. Et le parti communiste va vraiment se préparer à l'insurrection. Mais peut-être que les préparatifs ont commencé trop tard. En fait, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Enfin, ce qui est sûr, c'est que au dernier moment, le parti communiste va renoncer à déclencher cette insurrection. Et donc, à nouveau, oui, effectivement, c'est la répression, c'est l'interdiction du Parti communiste. C'est une nouvelle offensive patronale, juste après, où le patronat revient en arrière sur les 8 heures, revient en arrière sur différentes conquêtes. Et le premier putsch, la première tentative de putsch par Hitler, quelques semaines plus tard.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'après, le prolongement de tout ce que vous nous avez évoqué, là, trop rapidement, mais c'est la contrainte de l'émission. Après, je trouve qu'il y a un livre qui, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, tiens, ça fait écho, c'est La peste brune de Daniel Guérin. Je crois que vous l'évoquez, d'ailleurs, dans le livre. Mais en tout cas, quand on l'a lu, il est ressorti chez Sileps, là, il n'y a pas très longtemps. C'est tout à fait éclairant. Moi, j'avais aussi envie de vous poser la question en conclusion. Les Allemands étaient-ils prêts pour une révolution et pas une série de révoltes ?
Alors, c'est difficile de répondre. En plus, je suis passée de Guérin à... qui, effectivement, c'est un livre qui est important. Oui, la réponse est oui, puisqu'ils l'ont faite. Je veux dire, là, c'est pas seulement une série de révoltes.
Oui, mais enfin, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, voilà, ça c'est sûr. Mais je veux dire qu'en pendant 5 ans, malgré une répression qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus dure, on ne saura jamais combien de morts.
Ouais,
on ne saura pas. C'est chaque fois des milliers de morts à chaque étape. Un nombre incalculable. Malgré ça, on peut dire qu'une partie de la classe ouvrière est toujours repartie à l'assaut du ciel. A toujours réessayé, y a cru. Et y compris a été de plus en plus radical, c'est-à-dire a vu de plus en plus qu'on ne pouvait pas s'arrêter à mi-chemin, que s'arrêter à mi-chemin, ça voulait dire que les tenants de l'ancien pouvoir seraient toujours à l'offensive pour essayer de regagner tout le pouvoir. Donc, est-ce qu'ils avaient, maintenant pour votre question, la détermination, la conscience qu'il fallait continuer ? bon, c'est ce que vous disiez, tant que la révolution ne réussit pas, on n'a pas la réponse.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une révolution qui réussit ? C'est à quel moment ? C'est...
Moi, ce que je peux te dire, ce qui est sûr, c'est que l'humanité, elle a payé cher leur échec. Que si... Bon, c'est difficile de dire s'ils avaient réussi, mais en tout cas, leur échec fait que a facilité ensuite pas mal de tragédies. D'abord, la victoire du stalinisme. L'URSS s'est retrouvée isolée politiquement, économiquement. Le nazisme a été la victoire des nazis, leur arrivée au pouvoir. Elle a été causée par la crise économique, par une crise politique, par tout un tas de choses, mais elle a été facilitée par cet échec de la révolution, par cette répression, par le désespoir aussi de ne pas avoir réussi à changer le monde. Donc, est-ce qu'ils étaient prêts ? Est-ce qu'on n'est jamais prêt ? J'ai envie de dire. Est-ce que parfois on a tendance à lire l'histoire un peu de manière comme si elle était orientée vers une finalité obligatoire. Moi, j'ai envie de dire que la Russie, en Russie non plus, c'était pas sûr que la révolution, que la victoire des bolcheviks, elle n'était pas écrite d'avance.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Ouais.
Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tout cas, l'humanité, elle n'a jamais été aussi prête d'y arriver que dans ce moment-là.
D'accord. Vous avez des projets ? D'écriture, d'autres livres. Alors le prochain, c'est la montée d'Hitler au pouvoir. Non, c'est quoi ?
Non, mais j'ai beaucoup trop de projets, donc il faut que je canalise.
Bon,
mais ce serait peut-être les femmes dans la révolution.
Oui,
on a eu l'occasion d'en parler.
Comme ça, on vous réinvitera pour parler du rôle des femmes.
Et peut-être la résistance au nazisme aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui est peu connu en France.
Oui.
Mais en fait, en permanence, jusqu'en 45. Des groupes de jeunes gens, des groupes...
Alors, je rappelle votre livre, Allemagne 1918-1923. Donc, il y a plein de points qu'on n'a pas abordés, mais ce sont les leçons d'une révolution fusillée. C'est sorti chez Atland. À noter que c'est pas très cher, comme le prix n'est pas excessif. Et vraiment, commandez-le à Publico. J'en ai vu, donc c'est parfait. Merci Anne Desfarges.
Merci pour votre invitation. Merci.
Eh bien, passons maintenant à un thème plus léger. De Montmartre à Montparnasse. André Varnaud, on le connaît bien dans notre émission Au fil des pages. Son expression « l'école de Paris », nous l'avions développée avec Mathieu Lebal lors de la présentation de son livre « Montparnasse, quand Paris éclairait le monde », publié chez Albin Michel. Les éditions L'Échappée viennent de rééditer de Varnaud « Fils de Montmartre », suivi de « Drôle d'époque ». Un concentré de souvenirs d'un monde disparu, celui des rapins de Montmartre, vous verrez pourquoi, des peintres, des journalistes, des écrivains, un fourmillement de scènes, de fêtes, d'anecdotes.
Public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Tout ce que l'on construit, ces murs, tant de patience, cette science d'aimer, la vie, la démesure. Si l'on s'aimait, tout ce qui s'effondre à mesure, et j'y croyais, ton âme refuse et recule, le ciel à la fin qui bascule. T'as pas l'air de morte, ce rire clos comme une porte, toutes les montres arrêtées, l'avenir même où tu t'es abrité. La maison sans toi, ou bas un volet, on ne peut pas être trop.
Paru comme Alain Fournier. Allons au bœuf sur le toit, avec le groupe des Six, Jean Vianer en tête, ou le bal nègre de la rue Blomet. Je cite encore, « Cette fête déroulait ses fastes au printemps de l'année 1929. Tout alla ensuite de mal en pis. Une crise financière en Amérique eut des répercussions désastreuses. Un vent de panique souffle. Les spectres de la misère et de l'inquiétude se dressaient un peu partout. » Montparnasse, Montparnasse, tenez, lisez les portraits de Fujita, Pasquin, Van Degen, Buffet. Mesure-t-il qu'un autre drame se profile ? Revivez le 6 février 34, un voyage familial de la famille Varno à Bucarest, la drôle de guerre, la vraie, l'exode, la vie sous l'occupation à Lyon et la libération. Avec la légèreté, l'élégance du style d'André Varno, pénétrer dans ce monde disparu, une belle introduction pour découvrir ces artistes, comme un tableau tout en couleurs et contrastes de ce Paris. André Varno, fils de Montmartre, suivi de Drôle d'époque, aux éditions L'Échappée, en 2026. Et bien voilà, chers amis. J'espère que vous aurez encore envie de découvrir des livres, des livres, des livres. Ils nourriront, j'en suis sûr, votre réflexion et votre action au cours de cette année. Toujours le goût de la découverte, comme je le dis souvent. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. Merci pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve le mercredi 8 juillet 2026 pour clôturer cette saison 2025-2026 qui nous a apporté des souffrances intenses, mais aussi des découvertes, des joies, la vie. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu, ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
S'était lancé, on sentait que ça voulait flinguer. On faisait déjà du bec de sel, la cause le sortit l'hôtel. Fallait mieux être dans la mafia, éviter de se prendre un éclat. Avoir surtout le coup de charrette, surtout pas faire le coup de charrette. Même si l'autre marche à la topette, moi je ne cours pas à la musette. Je lui ferai dégueuler sa bouillie, même si je dois finir aux bougies. Un gars qui avait un bon de sortie, mais qui fumait la pipe aussi, a mis la chape au maillot vert et flingué dès l'intermédiaire. Il enroula une dégueulasse qui donne l'enterrement de première classe. Ouh, j'ai roulé dans la caillasse, essayant de faire parler la classe. C'est à ce moment que le maillot blanc a brûlé le ravitaillement. Mais une fringale et un coup de cul ont fait sauter la jeune recrue. Je me suis retrouvé la gueule dans le vent, loin de pédaler en ligne de chaîne. Et pas le temps de regarder les champs où certains mangeaient de la luzerne. D'autres s'enroulaient les jambes autour du cou, alors que moi j'étais Paul.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte,
c'est femme libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 26e émission de cette année 2026. Émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes deux aujourd'hui, voilà. Sandrine Malika qui va nous faire son opus poétique.
Bonsoir.
Bonsoir Sandrine. Et puis moi-même qui assure et l'animation et la technique. Alors j'espère que je vais pas faire trop de bêtises techniques parce que c'est toujours un peu difficile. Voilà. L'émission c'est tous les mercredi entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission femmeslibres.blogspot.com. N'hésitez pas à aller évidemment sur notre blog pour réécouter l'émission, hein, c'est sûr. Et puis, trouver peut-être aussi le programme, etc. Et retrouver ce que nous avons produit le 20 juin, puisque c'était les 40 ans de l'émission Femmes Libres. Eh bien, vous avez 4 séquences qui ont été enregistrées. Et sur ces séquences-là, vous retrouvez le programme de chacune des séquences, quelques photos, le texte qui a été lu au micro, et puis l'enregistrement complet de la séquence. Voilà, 4 liens, 4 séquences. On vous souhaite bien sûr une très bonne écoute. Alors, le programme de ce soir, opus poétique, avec 3 ouvrages qui viennent des éditions du Canoë, des éditions Idem, édition La Tour Verte. Voilà, et ça c'est Sandrine Malika qui va nous présenter cet opus poétique. Ensuite, nous avons une invitée qui a été enregistrée, Karine Snepmak, qui a peur du grand méchant trans, aux éditions du Monde Libertaire. C'est un livre qui est sorti en ce début 2026. Voilà, et troisième temps, ça sera les infos, les communiqués, les rendez-vous. Et là, on va démarrer avec l'opus poétique. Eh bien, voilà.